France Musique.
Nous retrouvons nos invités ici au studio 106 à la Maison de la Radio autour du compositeur Laurent Lefrançois. Il y a le clarinettiste Paul Meyer, le pianiste Cyril Guillotin, le violoniste Arnaud Valin. Merci à vous d'être restés après ce beau concert. Laurent Lefrançois, ils ont été bien. Hein.
Ah, magnifique. Vous je me disais, le contraire. Je les voyais passer. Je me disais, mais quel plateau extraordinaire. C'est vraiment... Qu'est-ce que je suis heureux et fier de les avoir vus, de ce bon disque.
On a de la chance. Alors, Paul Meyer, vous êtes à côté de moi. Vous connaissez Laurent Lefrançois depuis quelques années déjà. Ce n'est pas la première fois que vous jouez sa musique.
En fait, non, parce qu'on s'est rencontrés au Festival de Salon de Provence.
Et Lampéry, musique à Lampéry, vous êtes un des piliers.
Voilà, et où j'avais joué avec Ria à...
Idetta,
qui est Marine...
Comment dire, Beast.
Marine Beast, oui. Ouais. Un morceau qui s'appelle Padouk, et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent.
Alors, on écoutera tout à l'heure cet enregistrement, puisqu'elle n'a pas pu venir avec nous ce soir. Et puis, vous avez un gros projet ensemble, je crois, un bon projet, un peu de concerto, non, avec Laurent.
Ah oui, alors ça, c'est... Oui, voilà, je pense qu'il vaut mieux que Laurent s'en... expose
si,
peu.
Bah écoute, voilà. C'est quand même grâce à Paul. Effectivement, un beau projet de concerto pour clarinette, donc avec Paul comme soliste, et l'orchestre de l'Opéra de Rouen en juin 2016. Voilà, maintenant
vous
les dates
libre,
sont
Paul.
Fixées.
Oui, j'ai
tout
noté. C'était dur, hein,
mais vous savez qu'il enchaîne les concertos, non? Edith Canalchisi, Thierry Esquèche, enfin voilà, c'est...
Alors précisément dans l'itinéraire d'un clarinettiste comme vous, qui jouait aussi bien sûr tout le répertoire, la place de ces concertos d'aujourd'hui ou de la musique d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous, Paul Meyer?
Alors pour moi c'est bien sûr très important, mais ça remonte bien sûr à mon éducation au Conservatoire de Paris, où j'ai eu la chance tout de suite de faire partie des jeunes musiciens qui jouaient déjà les œuvres... des élèves compositeurs. Donc, j'étais toujours attiré, j'ai eu la chance aussi d'avoir une facilité pour la lecture et peut-être l'apprentissage. J'ai toujours bien aimé découvrir des partitions. Donc, j'ai fait ça tout le temps. Ensuite, j'ai passé un an à l'Ensemble Intercontemporain avec Boulez et toute l'équipe et Peter Edveuch qui était là. J'ai rencontré des grands compositeurs. Et finalement, c'est quelque chose qui est devenu pour moi une habitude et aussi un plaisir. Pour moi, c'est très important. Ça, c'est toujours un moment. Chaque fois, je peux déjà jouer une nouvelle œuvre, discuter avec les compositeurs ou aborder une nouvelle partition. C'est toujours quelque chose de très excitant et de revigorant parce que on passe beaucoup de temps, nous, interprètes, sur des œuvres du passé, à essayer de faire encore mieux que ce qui était fait avant, etc. Et je pense que l'unique manière d'avancer, c'est finalement aussi regarder un petit peu en avant, en se projetant dans ce qui va se passer dans la suite. Et puis, voilà, c'est un travail que j'adore, et puis j'aime aussi beaucoup cette idée de me retrouver avec une partition que je connais pas, essayer de rentrer dans le personnage, dans le rôle, essayer de la comprendre, de voir aussi quel est le rapport à l'écriture avec le compositeur, ce qu'il a, comment il se débrouille, comment il essaye de, parce que chacun a un langage, une forme, il y en a qui mettent beaucoup de nuances, par exemple, d'autres très peu, il y a des notations rythmiques, des fois compliquées, des fois pas, etc. Mais c'est ça qui me plaît dans ce travail. Avec les compositeurs.
Avec les compositeurs, avec Laurent Lefrançois en particulier ce soir. Laurent Lefrançois qui a des intérêts, des goûts musicaux extrêmement variés dans l'histoire de la musique. On va non pas en faire le tour ce soir, mais faire quelques propositions, en commençant par ce prélude de Buxtehude, interprété par Michel Chapuis à l'orgue à Rennes de l'église de Aurich. C'est en Frise orientale, un enregistrement de 1973. On l'écoute et on en parle après. À l'orgue de Aurich, Laurent Lefrançois, vous êtes très attaché à cette tradition. On a entendu tout à l'heure une transcription de Frescobaldi. Oui. Alors là, on avance un petit peu dans le temps, on se rapproche de Bach.
Exactement. Bah, d'ailleurs, dans ma pièce, la Padouk Fantasticus, ça vient du Stylus Fantasticus, qui était si cher à Buxtehude. Et donc, j'avais envie de l'entendre ce soir. Dans ce prélude des fûts qui est... Prélude des fugues, on imagine deux parties, là il y en a cinq.
Oui.
Alors, les choses s'enchaînent comme ça. Je trouve la forme est extraordinaire et voilà, ça, c'est une musique qui me touche beaucoup, avec pareil, un plaisir du contrepoint.
Musique qui vous touche, mais alors qu'est-ce qu'on retrouve de cette musique dans la vôtre?
difficile question. Le goût des rencontres qui frottent quand même. Malgré un aspect de ma musique qui peut paraître assez je veux dire, enfin, facile d'écoute à prime abord, mais je veux dire assez oui c'est facile, mais à l'intérieur quand même je glisse des choses comme ça pour faire naître ces rencontres qui à mon avis sont la base de l'expression, des choses qui frottent entre des pôles qui ne frottent pas. Voilà, ces rencontres-là, c'est le principe du contrepoint, vous me direz, mais et qui est magnifié dans des pièces comme celle de Buxtehude.
Alors, l'autre bout du spectre pour la musique pour clavier, il y a les compositeurs américains du XXe siècle.
Oui,
on aurait pu prendre George Crumb, que vous avez questionné particulièrement.
Oui, j'aime beaucoup Crumb, enfin, dans toute sa recherche au clavier, justement, enfin, toute cette chose de cluster, mais assez pas complètement chromatique, enfin, des choses comme ça que j'aime ces aplats en fait de notes. Et puis pour Crumb, il met beaucoup les mains dans le piano, alors on a des choses comme ça assez poétiques, et encore plus chez John Cage.
Alors John Cage, évidemment, le piano préparé que
voilà,
vous ne préparez pas le piano, vous
faites des
effets de résonance, on l'a entendu tout
à
l'heure.
Je joue sur les notes, les sympathies des notes, quand les touches du clavier sont enfoncées, évidemment, quand vous frappez une note plus grave, eh bien elles vont résonner en sympathie. Je joue sur des choses comme ça. Et le problème de Cage et souvent de cette musique de cette époque, c'est que ça demande une infrastructure assez. Voilà, il faut passer quelques heures, je crois, à mettre les bouts de gomme, de vis, etc., dans le piano. Et puis après, vous avez les facteurs de piano sur le dos aussi.
Là, c'est Gérard Frémy. C'est un enregistrement qui a beaucoup marqué à l'époque, en 1980. La 12e sonate pour piano préparé de John Cage avec Gérard Frémy au piano préparé. Et le hasard veut que Gérard Frémy nous ait quittés il y a exactement un an. C'était le 19 janvier.
Oui,
il y a un an, c'est en préparant cette émission. Nous avons constaté cela avec Laurent Lefrançois. C'est très beau, ces cloches, ces sonorités.
Oui. Alors,
vous qui aimez bien le côté percussif aussi de la musique.
Oui, et puis c'est tout de suite, on est dans un monde extra-européen, extra-occidental, donc on ne sait pas trop le déterminer, ça m'intéresse beaucoup, c'est très imaginaire, enfin voilà, c'est un autre monde. Et je crois que c'est ça, quand on est artiste, c'est de proposer un monde alternatif aux gens, je trouve que c'est une très belle idée.
Un monde extra-européen, vous dites peut-être aussi ce que l'on peut trouver dans cette pièce qu'évoquait Paul Meyer tout à l'heure, Padoux Fantasticus. Alors il y a cette référence au Stylus Fantasticus de l'époque baroque. Le Padoux, qu'est-ce que c'est, Laurent Lefrançois?
Le Padoux, c'est le bois tropical très dense dont sont faites les lames du marimba, en fait.
Voilà. Précisément, le marimba qui est ici associé à la clarinette dans cette pièce et dans le disque que vous venez de faire paraître, c'est Ria Hidetta qui joue le marimba. Qui n'a pas pu être là ce soir.
Alors, non, malheureusement, elle est à Munich.
Alors, on va l'écouter tout de même pour qu'elle soit
avec nous.
Oui. C'était une création précisément en 2009 au Festival de l'Empéry, dont Paul Meyer est un des résidents avec Emmanuel Pahut et Éric Lesage.
Oui.
C'était à Salon-de-Provence. Ici, donc, c'est un enregistrement qui vient de paraître dans votre disque Paul Meyer et Ria Hidetta. Thank you. Padouk Fantasticus de Laurent Lefrançois, le clarinettiste Paul Meyer et Ria Hideta au marimba. Ça figure sur ce disque qui vient de paraître, Balnéaire, sous le label Évidence. Laurent Lefrançois, on vous en a écouté essentiellement, bien sûr, ce soir. C'était le jeu de la musique de chambre, oui. Mais on a fait allusion à votre musique pour orchestre avec la pièce Le Nouveau Balnéaire, que vous avez adapté pour piano quatre mains. Mais vous avez d'autres projets pour orchestre, et puis vous venez d'en réaliser,
oui,
tout récemment, au mois de décembre.
Oui, à Douai, là, le 9 décembre... Frédéric Lodéon a dirigé là-bas l'orchestre pour une création transatlantique. Vous allez dire que je suis un peu obsessionnel.
J'ai l'impression, entre balnéaire, transatlantique,
ouais,
le Havre.
Je me suis dit, tant qu'à faire, on était au Havre, donc on va prendre le bateau. Et donc, alors je dois faire à terme un triptyque, donc vous imaginez bien où on va débarquer.
C'est le conservatoire de Douai, là. Hein oui. Alors, le conservatoire de Douai, c'était la ville de Dutilleux, ça n'a rien à voir.
Oui, on a joué dans l'auditorium ouais. Henri Dutilleux, très beau d'ailleurs.
Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré.
Alors, je l'ai rencontré une fois. Ouais. Et puis, je lui ai montré mon sextuor, enfin à l'époque, sextuor à cordes, et pas celui qui a joué, donc Erin Young, celui qui a joué les Parisiens tout à l'heure. Et voilà, j'avais affaire à un vieux monsieur assez diminué, oui. Parce que je l'ai rencontré, sa femme était déjà morte. Bon, il était très gentil, hein, il m'a encouragé évidemment, comme je pense qu'il encourageait tout le monde, enfin à cette époque-là peut-être. Et voilà, mais j'étais très heureux de le rencontrer, et puis surtout on était très embêtés de le laisser. Et puis il nous a dit non, j'ai une amie qui vient. Ouais. C'est le mime Marceau qui me l'a présenté. Alors là, on a fait un saut dans le temps. Mais c'est assez...
Un saut dans le temps, oui, comme on va le faire tout de suite avec la musique de Ravel, que Dutilleux avait aperçu d'ailleurs un certain nombre de fois,
oui,
hein, notamment
c'est ça,
en concert.
Hein. C'est toujours le truc de voir des gens comme ça, d'une autre époque, quoi. Et oui, Ravel, parce que là, j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est extraordinaire, un orchestrateur extraordinaire, c'est un musicien extraordinaire, et lui aimait bien donc cet aller-retour du piano à l'orchestre, toutes ces pièces de piano, il les orchestre. Et j'essaye, moi aussi, je travaille comme Ravel. J'orchestre au piano, je cherche comme lui, comme ça.
Vous avez besoin du contact, du son.
Oui, par
rapport
plaisir.
À la feuille blanche de la partition.
Oui, surtout au début pour chercher des idées, puis même pour orchestrer, pour vraiment voir un peu l'étendue des choses, enfin voilà, où on place les choses. C'est de l'acoustique, donc il faut, voilà. Et voilà, donc Ravel travaille comme ça, et
Cyril Guillotin, est-ce que vous sentez l'orchestre dans le piano de Laurent Lefrançois?
Particulièrement. Moi, j'aime beaucoup déjà entendre l'orchestre dans le piano en général. C'est ce que j'essaie de faire ressortir, d'aller au-delà des possibilités de l'instrument même. Et évidemment, la musique de Laurent, pour ça, est un support extraordinaire, parce qu'il y a des invitations à des sons multiples, à des sons même à créer, à des sons imaginaires, des sons qui n'existent pas. Et là, on prend un plaisir énorme parce que tout est possible, tout simplement.
Il faut aller chercher au-delà du piano que l'on connaît déjà.
Oui, parce que comme vous le dites, très bien, on le connaît déjà. Donc l'intérêt, c'est justement d'aller chercher autre chose de nouveau. C'est le concept même de la composition. Et c'est le plaisir qu'on a, nous, en tant qu'interprètes, à pouvoir travailler avec un compositeur, à pouvoir créer avec un compositeur, travailler sur cette partition, à reprendre des choses, à discuter des choses, à proposer des choses nouvelles, à quelque part être imprimé aussi une marque et de pouvoir partager cette chose en direct, c'est quelque chose d'extraordinaire. On rêverait tous de pouvoir avoir Brahms, Schumann, Chopin devant nous pour éclaircir un certain nombre de choses, pour leur proposer même des choses. Pourquoi pas, osons. Et on ne peut pas le faire. Alors du coup, on s'enferme parfois, pour certains, dans une tradition. Et là, c'est l'occasion de pouvoir justement la transcender, cette tradition.
Maurice Ravel, le Rigaudon du tombeau de Couperin. Alors, Slatkin. Alors, Laurent Lefrançois, vous n'allez pas couper à la question. Musique française, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle?
Oui, j'adore.
Est-ce que c'est une tradition qui existe toujours aujourd'hui? Est-ce que... On a beaucoup parlé des écoles nationales à partir du 19e siècle, il y a eu beaucoup de nationalisme là-dedans. C'est quand même une histoire un petit peu chargée. Alors, on dit souvent que la musique française est transparente, qu'elle est très orchestrale, qu'elle est plus légère que la musique germanique. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent, ou est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ce sont des âges de guerre à enterrer, et que vous êtes plus sensible, par exemple, à certaines choses de la musique américaine?
Oui, ça évidemment, je pense que tout le monde l'a entendu, ceux qui étaient à l'écoute du concert. Pour ce qui est de la musique française, effectivement, donc il y avait Claude Debussy, c'était Claude de France, il y avait tout ce côté, face aux Allemands, il fallait revendiquer un petit peu, je pense qu'on...
Il y a un siècle.
On est passé à autre chose. Mais je reste persuadé qu'on est quand même d'un pays, d'une lumière, d'un paysage, et que ça transparaît dans les œuvres des artistes, et qu'on en hérite d'une certaine manière. Donc consciemment ou inconsciemment, évidemment, après, dans les études, on étudie tout ça. Mais moi, j'ai un goût pour ça, quand même. Ouais, j'ai un goût pour ça, j'ai un goût pour Ravel, Debussy, vraiment. Et bon, que dire d'autre que
alors,
je
dans
me
la
sens
génération dans... qui suit, juste avant du TU, il y a Olivier Messiaen, qui est très connu, et puis quelqu'un qui est très peu joué aujourd'hui, c'est André Jolivet.
Oui, oui, parce que, bah, comme toujours, il y a des personnalités qui prennent le pas sur d'autres à certaines époques. André Jolivet, il est un peu passé, un peu passé à la trappe. Enfin, peut-être là, je pense que quand même, c'est les créations d'André Jolivet. Je sais pas, j'ai des enregistrements de concerto pour le violoncelle avec André Navarra. Quand même, il avait pas n'importe qui.
Mais aujourd'hui, en 2015,
ouais,
qui joue Jolivet?
Bah, pas beaucoup de monde. Pourtant, il y a plein de belles choses. Le langage est assez. Enfin, il y a plusieurs phases d'évolution. C'est vrai qu'il y a une sorte, peut-être qu'il a desservi une sorte de retour à une modalité, pendant la guerre et après-guerre. Je sais pas, qu'il a rangé vers, autre chose que les compositeurs modernes et d'avant-garde. Alors, ça l'a peut-être desservi. Bon, je ne sais pas. En tous les cas, moi, j'aime beaucoup de choses, de sonates pour piano, des cinq incantations.
Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette musique?
Il y a l'aspect rythmique qui est très incisif et assez brut, assez, assez primitif. Ça tourne en rond, mais pour la bonne cause, pour accentuer le message, la force du message incantatoire, justement, avec un jeu sur les tessitures, les registres très écartés, très aigu, très grave comme ça. Je trouve que cette musique est très expressive.
Vous parlez d'expressivité et d'incantation. Ouais. On écoute un extrait du chant de Linos pour flûte, trio, à cordes et harpe. Jean-Philippe Martignoni, violoncelliste du Quatuor Parisi, je vous voyais écouter cette musique comme si vous la connaissiez par cœur.
je l'apprécie beaucoup. C'est une pièce que nous avons jouée plusieurs fois.
Avec le Quatuor.
Avec le Quatuor.
Une partie du Quatuor,
voilà. Et puis avec toujours un flûtiste qui appréhende toujours cette pièce.
Mais il faut quelqu'un d'assez armé.
Très solide, très confiant surtout, parce que c'est une pièce qui a pas de marge, en fait, finalement. Et c'est peut-être aussi ce problème de ces musiques denses et compactes dans lesquelles, finalement, on n'a pas beaucoup d'espace. Je trouve la musique de Laurent, par exemple, pour revenir à lui, c'est de la musique où on n'en a pas encore parlé, où il y a beaucoup de résonance. Autant, alors c'est drôle parce que cette résonance...
On a prononcé le mot, mais on ne l'a pas explicité, c'est vrai.
C'est vrai qu'elle s'exprime autant dans la résonance des siècles passés, de la musique, de tout ce qu'on a retenu, de son propre parcours, de sa vie. En cela, elle lui ressemble aussi beaucoup, cette musique. Et puis en fait, et aussi des résonances des instruments, des résonances... Il y a des résonances antiques, et puis en fait, les instruments résonnent, et il y a de l'espace, et je pense pour un public, c'est simplement beau naturellement parce que ça sonne.
Une musique qui résonne dans le temps comme dans l'espace. Olivier Bernager, qui a signé un des deux textes qui figurent dans ce disque, Laurent Lefrançois, Olivier Bernager, qu'on a bien connu sur France Musique, compare d'une certaine manière la musique du sextoir mixte qu'on entendait en début de concert à la musique de Leos Janáček. Vous êtes d'accord avec ça?
À tous les cas, j'adore Janáček. Donc ça,
qu'est-ce qui vous rapproche de lui?
Je sais.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
À ce que j'aime chez lui, c'est des formes qui n'en ont pas, en fait, et des développements qui n'en sont pas. Une sorte de juxtaposition de choses et de rupture. Le discours évoluant en rupture, c'est très expressif. Toujours, c'est un mot que j'emploie souvent, je pense. Je cherche tous ces gens qui trouvent des moyens aujourd'hui de créer de l'expression, quoi. Et donc voilà, Janáček réussit ça remarquablement, je trouve.
Laurent Lefrançois, on va refermer cette émission avec une évocation du Quatuor. Le Quatuor qui était présent ce soir, c'était le Quatuor Parisi. Là, il a une belle devise, d'ailleurs, qu'il a empruntée à Berg. C'est jouer le répertoire comme de la musique nouvelle et la musique nouvelle comme du répertoire. Arnaud Valin, c'est quelque chose, vous qui êtes violoniste du Quatuor Parisi, que vous appliquez tous les jours quand vous vous levez le matin?
Quand je me rase, surtout, c'est vrai.
Vous y pensez quand vous vous
rasez? J'y pense souvent, très souvent. Ouais. Je pense tout simplement que ça fait partie de notre ADN. Je pense que c'est simplement une manière de se rappeler qu'il n'y a pas de frontières et que souvent, on a tendance à mettre les choses dans des petites cases et qu'il y a la musique française et qu'il y a la musique contemporaine et qu'il y a de la vieille musique et il y a de la musique qui plaît ou qui ne plaît pas. Et je dois dire que ce soir, je suis touché parce que, comme les auditeurs, en fait, je commence à apprendre qui est Laurent Lefrançois, puisqu'on s'est juste rencontrés. simplement pour le disque. Et ce dont on parle ce soir, on parle de couleurs, on parle de voyage, on parle d'influence et on parle de monde un peu décalé. Je pense que c'est ce qu'il veut faire passer. Et il y a une manière de le faire et je pense que là, il réussit vraiment son message. Non, mais vraiment, je te le dis parce que on a à la fois toute la latitude de bouger à l'intérieur de cette musique et en même temps, il y a une écriture qui est là et qui est très personnelle. Et c'est ça qui est touchant.
Laurent Lefrançois, dans ce parcours qu'on effectue dans ce magazine, après le concert, vous avez choisi de refermer cette émission avec Bartok. C'est quelqu'un qui reste présent dans votre
panthéon. Oui, c'est extraordinaire à tout point de vue, je trouve. Le personnage est extraordinaire. Il a été voir les nazis en leur disant « Vous m'avez oublié sur la liste des dégénérés ». Ensuite, il se retrouve aux États-Unis, il s'y plaît pas du tout. Enfin, le type est extraordinaire. Après, son quatuor, là, le numéro 4 que j'ai proposé, et je trouve qu'il est dans la forme vraiment exceptionnelle, et en forme en arche, en 5 mouvements, avec le mouvement lent au milieu. Je vais reparler d'expressivité, mais qu'est-ce que c'est expressif, hein? C'est extraordinaire. Voilà.
Particulièrement dans cette magnifique interprétation, oui, en plus, ouais. Du quatuor Vague. Avec ce dernier choix de Laurent Lefrançois, se referme cette émission spéciale ici au studio 106 de la Maison de la Radio. Merci à tous les musiciens qui sont venus jouer ce soir. Merci à vous, Laurent Lefrançois.
Oui, merci à vous aussi et merci aux musiciens surtout. Ouais, c'était un très beau plateau, extraordinaire.
Ce soir, la prise de son était signée Jean-Michel Bernaud avec Nicolas de Pagraf et Éric Villenfin et Nadège Antonini à la sonorisation, Vincent Lecoq et Jean-François Lich à la régie. Léa Racine nous a aidés à préparer cette émission qui est réalisée comme chaque semaine par Marie Groux. La semaine prochaine, nous diffuserons un concert de l'ensemble de The 2M, enregistré voici quelques jours à Paris au Conservatoire de la rue de Madrid. Et puis, nous recevrons une chef d'orchestre, Kanako Abe. Vous écoutez France Musique, il est 22h30, c'est l'heure des communiqués.